Connaissez-vous le film « Mange, Priem » d'Elisabeth Gilbert ? Beaucoup de femmes ont certainement été touchées par son message. Parfois, nous menons une vie aux allures de perfection à l'extérieur, tandis que nous fanons à l'intérieur. De la mère au foyer, à l'écriture, en passant par la peinture, les conférences et la pratique de coaching en PNL, les multiples vies d'Ariane Laberge nous prouvent à quel point notre sentiment de liberté est essentiel à notre équilibre. Bonjour Ariane.
Bonjour Nancy.
Ça va bien?
Ça va très bien, toi?
Mais ça va, mais merci en tout cas d'être avec moi. C'est magique quand même la technologie. Heureusement, on peut garder du lien grâce à ça. Donc toi, t'es au Québec?
Oui, merci pour l'invitation. C'est vraiment une très belle invitation.
Puis alors, entendre cet accent, j'ai envie de te garder pendant une heure avec moi. Merci. Tu nous ramènes
merci
du soleil.
À toi. Vous êtes privilégiés parce que nous ici, c'est la pluie aujourd'hui.
Oui, ben, moi aussi, mais comme tu es là, il y a du soleil tout le temps, tu vois?
Et voilà.
J'ai adoré ton livre, tu sais. Déjà, le titre, tout de suite, ça a fait écho. Ah oui, la liberté, on est tous en quête de liberté. Tu vas nous raconter la Ariane que tu étais enfant d'abord, nous raconter tes rêves et ensuite ton parcours.
Je suis née d'une famille modeste, trois filles, j'ai deux sœurs, puis celle du milieu. Mais même enfant, j'avais des aspirations un peu particulières, je dirais. Je considère que j'ai eu une enfance heureuse. J'ai pas vécu de grosses épreuves enfant, mis à part qu'on a déménagé maintes fois. Et dans mes rêves d'enfance, moi, c'était simple. Je voulais sauver le monde. Déjà, jeune enfant. Je faisais des pâtisseries avec ma mère et je lui disais que j'étais pour sauver les enfants de la famine parce que j'allais leur montrer comment faire des gâteaux.
Oh, qu'est-ce que c'est mignon, ça. Donc, tu voulais être une super-héroïne?
Ouais. Je sais pas. Je portais ça en moi. Dans ma tête d'enfant, il y avait de la famine dans le monde, pas parce qu'il manquait de nourriture, mais parce qu'ils savaient pas comment faire des gâteaux. Il y aurait plus de famine dans le monde. Et j'ai été longtemps et j'aime encore faire des gâteaux.
C'est mignon. Donc, tu voulais sauver le monde, sauf que, comme tout le monde, après, tu as compris, adolescente, que d'abord, il fallait se sauver soi-même.
En fait, je pense que j'ai même compris ça un peu plus tard. Je pense que, même adolescente, j'avais encore ce côté idéaliste-là en moi. Je pense que je suis vraiment une grande rêveuse et dans ma vision des choses, tout est possible en autant qu'on s'en donne les moyens. C'était plus début adulte, quand j'ai rencontré le père de mes enfants. Curieusement, je n'étais pas follement amoureuse de lui, mais il représentait la stabilité que moi, j'avais jamais connue dans ma vie. En fait, j'ai déménagé 17 fois, donc changé d'école plusieurs fois, changer d'amis, ce qui m'a apporté le fait que je suis capable de me retourner d'une situation à l'autre rapidement. Cependant, ça a fait en sorte que j'avais un besoin d'ancrage très grand.
Et tu as eu envie de te poser avec un seul homme pour toute la vie, comme toutes les filles en rêve. C'est vrai, on joue au Barbie avec Ken, et puis le but, c'est quoi? C'est de faire des enfants. On est un petit peu conditionné à cette vie-là.
Oui, mais on nous vend cette image-là. On nous vend l'image qu'on a réussi notre vie, qu'on est un bon citoyen quand on est marié, on a des enfants, on a une belle maison, une petite voiture, un chien, c'est le portrait idéal.
Tout à fait.
Là, c'est comme si on a l'ensemble du portrait. Mais dans la réalité, dans les faits, c'est tout autre chose. C'est, malheureusement, je vois beaucoup, beaucoup de gens qui parfois restent dans des relations toxiques uniquement pour préserver cette image-là.
Et donc, toi, tu as construit cette vie-là quand même assez longuement puisque tu as eu 4 enfants jusqu'au moment où tu as décidé de changer de vie.
Ouais, et ce qui est le plus fou là-dedans, c'est qu'à 19 ans, j'ai subi une opération et qu'on m'a dit que jamais j'aurais d'enfant.
C'était quoi le souci pour ne pas avoir d'enfant?
Je faisais de l'endométriose.
Tu as eu 4 enfants en faisant de l'endométriose, mais c'est un témoignage extraordinaire.
Ouais.
Mais comment tu as fait?
Mais en fait, j'en faisais pas beaucoup. Mais quand ils m'ont opéré, c'est ce qu'ils m'ont dit. La famille, oubliez ça, Madame Laberge, vous n'aurez jamais d'enfant. Donc, quand j'ai connu le père de mes enfants, mais on se protégeait pas. 6 mois plus tard, j'étais enceinte et comme je croyais que c'était le seul que je serais capable d'avoir, jamais j'ai pensé ou regardé l'option là, de me faire avorter ou quoi que ce soit, même si la relation dès les premiers mois est un
Elle était chaotique et donc tu as quand même continué cette relation parce qu'évidemment après tu as eu un enfant et quand on a un enfant on se sent responsable et on doit faire perdurer le couple pour justement faire perdurer cet idéal de vie.
Oui, puis moi je viens d'une famille où les valeurs familiales sont extrêmement importantes, c'est ce qu'on m'a transmis, que la famille c'est ce qui est le plus important. On avait des rencontres nous tous les dimanches, toute la famille, cousins, cousines, oncles, tantes chez mes grands-parents, tous les dimanches. C'était presque une religion là, chez nous, la famille. Pour moi, c'était inconcevable de briser ce qu'on m'avait enseigné.
Oui, la question ne se posait pas. Penser à soi oui. n'était pas la question.
Pas du tout, d'autant plus que non seulement les valeurs familiales étaient extrêmement importantes, mais moi, j'ai eu ce qu'on appelle une mère sacrifice. Et je dis souvent dans les conférences, ma génération, on a eu deux types de mères, les féministes et les femmes sacrifices. Donc, quand on a le modèle de mère sacrifice qui s'oublie complètement pour le bien de ses enfants, de son mari, notre définition d'une bonne mère, c'est quelqu'un qui s'oublie.
Tout à fait.
Alors, si je veux être une bonne mère, je dois m'oublier.
Or, ce n'est pas le cas du tout.
Non, pas du tout. C'est une belle grosse utopie.
Au contraire, on doit transmettre à nos enfants une image différente de ce qu'est la femme et de ce qu'est l'homme dans un mariage pour que eux justement ne reproduisent pas ce qu'ont connu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, où c'était la femme à l'intérieur, la femme ne travaillait même pas en plus à l'époque.
Oui, oui, puis on ne remet surtout pas en question ce qui est déjà mis en place. Prendre un moment pour se choisir et faire des choix pour soi, c'est aussi enseigner à ses enfants que dans la vie, c'est important de se poser des questions et de se prioriser. C'est ce qui va nous permettre d'être pleinement épanouis, de grandir, d'être heureux.
Et le bonheur, ça se transmet. Donc en fait, quand on est heureux, on rend les autres heureux. Quand on est malheureux, on leur apporte des énergies négatives et ça fait l'effet inverse. Alors, on continue le parcours. On était arrivé au premier enfant. Ensuite, il y en a eu trois. Pourtant, la relation était déjà compliquée au départ.
Oui, c'était déjà compliqué, mais en fait, c'était une relation qui était très... je ne sais pas si je pourrais utiliser le mot pervers, mais c'était un roller coaster. T'sais, il y avait des grands hauts, des grands bas. Quand ça allait bien, ça allait merveilleusement bien. Quand ça allait merveilleusement mal aussi. C'était un homme qui avait... Il y avait beaucoup de manipulation dans la relation. Il y avait beaucoup de sentiments de culpabilité.
Toxicité?
Tout à fait.
Tu utilises le terme pervers narcissique ou pas du tout?
Je pourrais qualifier de pervers narcissique. Parce que parfois, je dis... c'était un peu de la bipolarité non diagnostiquée. Donc, quand tout était beau, c'était vraiment beau, j'étais la meilleure personne. Mais quand tout allait mal, tous les problèmes de la planète étaient de ma faute. Ça devenait vraiment aliénant comme situation.
Oui, parce que tu te remettais en question, tandis que lui ne se remettait jamais en question.
Oui, puis je prenais tout sur moi. Et comme il y avait une manipulation, une violence verbale, souvent, ben, je ramenais tout à moi et il y avait vraiment le don de faire en sorte que quand on avait une discussion, au final, c'était moi la coupable.
Et comment est-ce que tu as pu tenir aussi longtemps jusqu'à avoir tes fameux quatre enfants?
C'est souvent quand la relation se replaçait, que tout allait bien, là, oups, on avait un autre enfant. Et là, pouf, ça retombait et ça revenait. Plusieurs fois, on a été 10 ans ensemble, plusieurs fois, je me suis dit, ah, ça n'a aucun sens. Mais on est aussi porté par un rêve, hein? On est porté par l'espoir où on se dit qu'à un moment donné, on va trouver l'air d'aller, on va trouver notre vitesse de croisière, les choses vont s'équilibrer. Et à chaque fois qu'il arrive un haut, là, ça nous remplit d'espoir, puis on se dit que ça va perdurer. On nourrit cet espoir-là jusqu'au jour où on réalise, à un moment donné, il y a des gens qui ne réalisent jamais, qui restent là-dedans toute une vie. Mais à un moment donné, pour moi, dans mon cas, c'était une question de survie. Je me suis dit, ça n'a aucun sens. Et dans mon livre, je dis, j'avais l'impression de vivre sous une toile d'araignée.
Tu as eu cette envie de vivre. Et ouais. Il y a eu ce moment où tu as pris la décision. Tu ne nous en parles pas exactement hein, de comment ça s'est passé, ce que tu as vécu. Ce qui est sûr, c'est que derrière, aujourd'hui, tu es libre.
Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Puis je dis souvent que c'est le plus beau cadeau que je me suis offert dans ma vie.
Qu'est-ce que ça a changé pour toi? Parce que tu as quand même choisi de quitter la sécurité pour finalement te retrouver sans rien, repartir de quelque chose de tout à fait abstrait, tout en ayant quatre enfants, avec j'imagine un mari qui n'a pas été très conciliant ou l'a été quand même un peu?
Non, pas du tout. Ça, je pourrais écrire un deuxième livre là-dessus.
Ah oui, ah ben oui, on veut les détails, mais tu pourrais peut-être les donner un petit peu ici. Comment ça s'est passé, cette libération?
Pour moi, ça a été vraiment un cadeau. Tu sais, moi, la journée où j'ai décidé que j'avais le droit d'être heureuse et que j'ai quitté, je me suis installée dans un petit 3,5. Mais tu sais, ça a été difficile. Tu sais, moi, dans mon intérieur, le moment où j'ai pris cette décision-là, ça a créé une libération à l'intérieur de moi. C'était incroyable. Même si, dans les faits, dans la réalité, il est arrivé une multitude d'événements désagréables. Tu sais, il m'a menacé. Ça a été des menaces, ça a été des crises, ça a été beaucoup de bouleversements. Mais malgré ça, à l'intérieur de moi, je savais que j'avais pris la bonne décision.
Alors qu'il a joué avec la peur. Il a essayé, ah, oui, via la peur, de te retenir.
Oui, oui. Et au début, j'ai été longtemps à ce que ça fonctionne. Tu sais, ça m'a pris... nous, on était mariés. Ça a pris au moins, je dirais, il me semble que c'est 2 ans avant que je me sente suffisamment solide pour l'affronter et que je prenne des procédures judiciaires pour qu'on obtienne un divorce et que j'ai une pension alimentaire légale.
J'imagine que l'âge des enfants aide aussi à un moment à se libérer un peu plus quand les enfants sont un peu plus grands?
Oui, mais ça, c'est venu quand même plus tard parce que moi, quand je me suis séparée, mon bébé avait 2 ans. Fait que les enfants avaient 2 ans, 5 ans, 7 ans et 9 ans.
Donc, ça a été combien d'années de difficultés avec le papa?
Il y a eu l'étape importante où on doit, à un moment donné, arriver à dire « OK, je dois faire valoir mes droits. Je dois me tenir debout. Je me suis sortie de la relation toxique. Maintenant, pour le bien de mes enfants, parce que souvent, les femmes, on éprouve une culpabilité, on ne veut pas demander, on veut s'organiser. Il y a beaucoup de femmes qui ont ce que j'appelle le syndrome de la superwoman et qui veulent tout régler par eux-mêmes. Mais c'était moi, dans mon cas, je voulais acheter la paix, j'avais peur de ses réactions, je voulais rien provoquer. Mais au final, il n'y a rien qui s'achète. Même en faisant rien, quand on est dans une relation toxique, l'autre va continuer de chercher à vouloir garder le lien. Parce que les gens qui veulent préserver le lien, ils vont le faire dans la chicane si c'est nécessaire. C'est une façon de vouloir tenter de préserver son pouvoir. Fait que première décision importante que j'ai fait après, c'est prendre des procédures judiciaires légales.
Donc ça a été en affrontant la situation, pas seulement en fuyant, parce que fuir n'est jamais la solution, c'est toi qui le dis d'ailleurs.
Oui, oui, tout à fait. On cherche à fuir souvent par la peur, mais la problématique reste là.
Il faut affronter.
C'est vraiment en faisant face à la situation. Puis, tu sais, oui, ça demande beaucoup de courage. Tu sais, j'ai envie de dire aux gens qui nous écoutent que, tu sais, quand on prend les bonnes décisions pour soi, ben, tu sais, c'est Paolo Coelho qui dit tout l'univers conspire à nous faire atteindre ce but-là.
Oui.
Il faut à un moment donné, tu sais, moi, je dis souvent à mes clients, quand on est assis au bout du tremplin, on peut passer notre vie à se dire, ah, l'eau a l'air froide, peut-être que je vais faire un flat, peut-être que je vais. Puis on reste dans la peur en supposant tous les scénarios qui peuvent arriver. Il faut à un moment donné avoir suffisamment confiance en la vie et se lancer, faire le saut.
Et tu l'as fait. Raconte-nous, à partir du moment où tu as eu ce sentiment de liberté, tu l'as dit 2 ans quand même après l'avoir quitté, comment tu as fait pour oser t'affirmer? Au départ, tu faisais de la peinture et c'est seulement après que tu as commencé à vouloir aider les autres, alors que lui a dû au départ te mettre dans la tête que toi, tu avais un problème. Après, tu as inversé le mécanisme et tu t'es dit non, mais en fait, c'est pas moi qui ai un problème. Et tu as réussi à régler ton problème. J'imagine que tu as consulté un petit peu. C'est comme ça que tu as dû découvrir toutes ces pratiques-là. Et ensuite, toi, tu as voulu transmettre des messages aux autres et aider les autres. Donc, c'est un parcours énorme psychologiquement pour arriver à cela.
Oui. En fait, au niveau psychologie, développement personnel, ce qui est étrange, c'est que je suis un peu comme Obélix. Moi, je suis née dedans. Mon père avait une bibliothèque de développement personnel et à partir de l'âge de 14 ans, j'ai commencé à lire des livres de psychologie, de développement humain, de pensée positive, de visualisation. Alors, je baignais déjà là-dedans.
Mais tu n'as pas vu passer le pervers narcissique dans ta vie. Parce que tu étais en quête d'aider l'autre, en fait. Tu as choisi quelqu'un que tu voulais aider, mais en fait, c'était toi qui devais être aidé et pas l'inverse.
Ouais, puis je dis souvent que cette relation-là, ben, c'était une relation karmique où j'avais des factures à payer. J'ai longtemps cherché une explication logique à cette relation-là. En fait, ça m'a apporté beaucoup. Il m'a appris à me respecter, il m'a appris à me tenir debout. J'ai dû apprendre à me relever pour qu'on arrête de s'essuyer les pieds sur moi.
Mais comment tu as fait pour te relever? Quel est le conseil que tu pourrais donner aux femmes qui nous écoutent, qui ont cette peur, à un moment donné, de partir, de tout quitter, de déstabiliser les enfants alors qu'elles vivent l'enfer à la maison? Qu'est-ce que tu peux leur dire pour les encourager à y aller et par rapport à toi, ta nouvelle vie aujourd'hui?
Le plus grand conseil que je dirais, c'est avoir confiance. Il faut, dans un premier temps, se choisir soi. Faire le choix, avoir l'engagement avec soi-même que le bonheur, on y a droit. C'est pas quelque chose qui existe uniquement pour les autres. Puis d'avoir confiance. L'autre, il peut crier, il peut faire toutes sortes de trucs. Puis, tu sais, aller chercher des ressources, tendre la main, demander l'aide, demander des conseils. Il y en a beaucoup de ressources. Il y a des centres de femmes. Tu sais, il y a des ressources légales pour des femmes qui ont des plus faibles revenus. Il y a plein de ressources. Moi, j'invite vraiment les femmes à aller, au moins dans un premier temps, aller chercher de l'information pour se rassurer.
Oui, et faire de la PNL, programmation neuro-linguistique, c'est c'est ça qui a dû t'aider, toi. Moi, je me suis rendu compte que j'en ai fait un moment, et j'en fais toujours d'ailleurs, un peu toute seule. Quand je faisais un burn-out professionnel, c'est une maquilleuse qui m'a dit ça. Elle me dit, mais tu sais ce que tu es en train de faire? Tu reprogrammes ton cerveau, ça s'appelle de la PNL. Et en fait, c'est une manière, à un moment donné, de fonctionner complètement à l'opposé de ce qu'on était, c'est-à-dire de déculpabiliser, de vraiment changer nos programmations. Est-ce que tu peux en parler? Parce que est-ce que c'est ça qui t'a aidé et qui fait qu'aujourd'hui, tu l'utilises pour aider les autres femmes, notamment?
Oui, mais en fait, curieusement, moi, juste avant de me séparer, je faisais des cours de Reiki avec une dame. Et puis, une journée où je suis arrivée un petit peu amochée parce qu'on avait une grosse chicane à la maison, on était dans le processus de séparation, c'était vraiment difficile. Elle m'a fait une intervention PNL. Je ne savais pas à l'époque que c'était de la PNL. Et souvent, je dis que cette intervention-là m'a vraiment sauvé la vie. Elle a vraiment amené chez moi un switch au niveau de ma façon de voir les choses et un ressenti qui revenait souvent dans ma vie, qui touchait d'ailleurs à mon rôle de mère et à la culpabilité que j'avais en moi. Là, elle m'a expliqué que c'était de la PNL et tout ça. Et à ce moment-là, moi, j'ai mis faire de la PNL sur mon bucket list. Au départ, je voulais faire de la PNL, moi, uniquement pour mon plaisir, pour connaître d'autres, tu sais, des nouveaux outils, puis pouvoir en faire profiter mes proches. Mais c'est vraiment la journée où je suis arrivée au centre de coaching que je me suis dit, oh, je suis à la maison. Et j'ai réalisé que j'avais fait ça toute ma vie. Tout le temps que j'avais enseigné les arts, c'est ce que je faisais du coaching avec les étudiants qui venaient.
Voilà, quand on se rend compte que finalement, on a toujours aidé les autres sur notre passage, on se dit, mais tiens, on a peut-être envie d'en faire plus encore. C'est ce que tu fais au travers de ton livre. Et maintenant, puisque tu en as fait une profession, tu ne fais pas que de la PNL d'ailleurs, tu fais aussi les constellations familiales. Comment est-ce que c'est arrivé sur ton parcours? Parce que ça, c'est vraiment quelque chose que je découvre aujourd'hui. Raconte-nous ce que c'est et à quoi ça sert.
Oui, ben en fait, moi, j'aime bien dire que c'est les constellations familiales qui m'ont choisi. C'est vraiment arrivé dans ma vie et c'est un beau cadeau. Les constellations familiales, pour mettre une image simple, c'est tout notre système familial, nos enfants, nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, tous nos ancêtres. Donc ça, c'est un système de famille. Et chaque système de famille a un livre des grands comptes, comme une entreprise. Et puis parfois, nos ancêtres ont créé des dettes et les générations suivantes payent la dette. Si on reprend juste mon parcours de vie, j'en expliquais tantôt, tu me disais aussi, Nancy, que tu as eu un exemple de mère sacrifice. Alors souvent, on fait quoi? Par loyauté, d'amour pour notre mère, on va répéter la même chose. C'est une façon de dire à notre mère, je t'aime tellement que je vais être comme toi. Tu ne seras pas seule à être malheureuse dans ta relation, moi aussi, je vais l'être. Et du moment où on prend conscience que de cette loyauté-là, ça nous permet de dire, écoute, c'était ton choix à toi de ne rien dire et d'être soumise. Maintenant, merci d'être bienveillante envers moi si je me choisis que je prends des décisions pour être heureuse. Alors là, je redonne à mon parent ce qui lui appartient. Je brise la chaîne et par le fait même, je vais libérer mes enfants de ça. L'histoire n'a pas commencé avec nous, mais on a le pouvoir qu'elle s'arrête avec.
Oui, voilà. C'est vraiment un ressenti que j'ai eu de dire, en fait, on a un rôle. C'est vraiment de changer les choses pour nos générations à venir. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti très fort. Et en travaillant sur les constellations familiales, on peut trouver des clés et des réponses plus rapidement?
Oui, vraiment. Puis ce qui est génial, c'est que ça permet d'aller travailler dans le système de façon élargie. Parce que parfois, il y a des loyautés à un membre. T'sais. En gros, le système familial, il est régi à trois lois, dont un, tout le monde a un droit d'appartenance. Une âme humaine, c'est une âme humaine et elle appartient au système et on doit la reconnaître. Et souvent, parfois, exemple, j'ai des femmes qui viennent pour des constellations et qui me disent « j'arrive pas à trouver ma place. Je suis constamment en train de chercher ma place. Au travail, je me sens pas à ma place. À la maison, je me sens pas à ma place. Quand on a des rencontres sociales, je me sens pas ma place. » Et souvent, ça a un lien direct avec la fratrie, les frères et sœurs et parfois la mère qui a perdu des enfants et qui, là, dans leur rang, il y a eu un mélange et il y a une non-reconnaissance des âmes humaines qui appartiennent au système.
D'accord, c'est très intéressant.
En mettant ça en lumière, ça permet aux gens de retrouver leur propre place.
Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, quand on vit une difficulté plutôt PNL ou plutôt constellation familiale ou plutôt les deux?
Ben moi, j'ai beaucoup de difficultés à dissocier un de l'autre. Je pense que c'est ce qui me différencie peut-être des autres coachs. J'intègre souvent la constellation familiale à même le coaching parce que je le sais, je l'ai vu par expérience, quand parfois il y a un blocage, c'est une loyauté. Si on ne va pas défaire cette loyauté-là, c'est un peu comme si on avait un élastique dans le dos. T'sais, des fois, on lit un livre, on a une problématique, là, on fait comme « Ah oui », ou on écoute une conférence, il y a des gens qui vont écouter le podcast, puis là, « Ah oui, ça allume une lumière », on avance, puis à un moment donné, point, c'est comme si on recule à la case départ, puis là, on se dit « Mais voyons, il me semble que j'avais travailler sur cette problématique-là. C'est que les loyautés, souvent, elles se situent à un autre niveau, c'est inconscient. Puis là, la constellation permet d'aller délier ça.
Et toi, tu peux dire maintenant que tu as toutes les astuces, PNL, constellation familiale, que tu as aussi ton vécu, que tu es forte de tout ce que tu as réussi à entreprendre et à faire depuis ce fameux divorce. Est-ce que tu vis maintenant une vie enfin paisible et heureuse ou est-ce qu'il y a quand même encore toujours des autres choses à régler? Ah, la question! Hein. Moi, j'aime bien aller en profondeur. Hein.
Ah oui, ben moi, j'adore cette question-là, mais certainement qu'il y a toujours des choses à régler. C'est la vie et je trouve que c'est la beauté de la vie. Tu sais, on a beau avoir un parcours riche, qui a été nourrissant, enrichissant, avoir plein de connaissances, mais on reste des êtres humains à la base. On est des êtres divins dans une expérience humaine. Et je dis souvent, ben la vie, c'est comme le jardinage. Hein. On peut faire un grand ménage, enlever les grosses mauvaises herbes, mais si on l'entretient pas, la mauvaise herbe va revenir.
Oui, c'est ça. C'est un travail permanent. C'est un peu comme faire du sport, finalement être bien avec soi-même, avec les autres, c'est un travail de tous les jours, ça ne s'arrête jamais pour être de mieux en mieux.
On continue toute notre vie à faire ce que j'appelle du fine-tuning. T'sais, encore récemment, j'ai fait des prises de conscience monumentales par rapport à l'artiste que je suis, qui était liée à ma mère et j'ai fait comme « waouh, c'est un cadeau extraordinaire ». Je dirais que ça permet peut-être d'être dans la souffrance moins longtemps, de peut-être plus voir rapidement ce qui est... Mais sinon, on reste des êtres humains qui vivons des expériences.
Et finalement, la vie, c'est ça. C'est un peu comme monter ou descendre d'une échelle ou rester au même endroit. Ce qui est génial avec toi, Ariane, c'est que tu témoignes d'une vie quand même accomplie où tu as pu réaliser des choses et ça peut donner de l'espoir à beaucoup de personnes qui nous écoutent, des femmes, mais aussi des hommes, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui vivent parfois des situations un petit peu limites et plutôt toxiques. J'aime beaucoup cette citation, Ariane, où tu nous dis « Nous récoltons des autres le respect que nous avons de nous-mêmes. » Alors celle-là, elle est géniale parce qu'elle dit absolument tout sur les moments où on vit entouré que de négatif et les moments où tout s'inverse.
Ah oui, vraiment. La journée où on a suffisamment de respect pour soi, qu'on a suffisamment d'amour pour soi, on laisse plus les autres maltraiter. On s'aime assez pour se préserver et prendre soin de soi.
Il n'y a qu'en étant en phase avec soi-même, à l'intérieur, à l'extérieur, que le monde autour de nous peut changer et peut l'être aussi. Et c'est vrai que ça, je vois aussi les résultats. Quand je change ma pensée à mon sujet, que je me vois sous un œil positif, les autres sont positifs autour de moi. C'est vraiment incroyable ce phénomène-là. Si tu devais choisir une citation, que ce soit la tienne ou celle de quelqu'un qui revient comme ça pour toi comme un mantra, tu nous dirais quoi aujourd'hui?
Une citation que j'affectionne particulièrement, c'est une citation du Dalai Lama qui dit « De vivre sa vie de façon honorable. Ainsi, quand on aura un regard sur notre vie, on en bénéficiera une deuxième fois. »
Oui, c'est important
de travailler. Il y a une autre citation qui m'a vraiment marquée dans ma vie et qui va sûrement parler à beaucoup de gens qui sont dans une relation toxique. C'est « Ce n'est pas parce qu'on n'a pas mangé le lion dans la savane que le lion ne nous mangera.
Oui. »
J'avais une tendance à croire que tout le monde est beau et tout le monde est fin.
Moi aussi.
Alors, comme jamais j'aurais osé manger le lion dans la savane, je croyais naïvement que jamais le lion me mangerait. La vie, ça ne fonctionne pas au mérite. C'est un peu utopique de croire que parce qu'on n'a pas mangé le lion dans la savane que le lion ne va pas nous manger.
C'est vrai. C'est toujours idéaliste. On revient à cet idéalisme qui peut être quand même féminin. Mais aujourd'hui, les choses changent et elles vont changer grâce à nous, nouvelle génération, celle de nos enfants, à ce qu'on va leur transmettre. Et effectivement, la sagesse, être bien avec soi-même, être heureux, c'est le plus important. Et de toute façon, on peut savoir si on doit rester ou pas dans une relation, tout simplement, si notre cœur continue à vibrer avec la personne pour de vrai.
Ce que l'on vit, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Tu disais tantôt, quand je me sens bien, que je suis positive, tout se place alentour de moi. Mais oui, parce que tout est placé à l'intérieur de toi.
Eh bien, tout est dit. C'était le mot de la fin.
Merci, à bientôt, Nancy.
Énorme bisous à toi. Prends soin de toi. Et vous aussi, prenez soin de vous. Je vous souhaite de toujours cultiver votre espace de bonheur pour ressentir un maximum ce que l'on appelle l'harmonie. Je vous embrasse et à la semaine prochaine.